إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Les conditions de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui est la bonne parole, la parole du monothéisme, du tawhid, la parole pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés pour l'adorer seul sans rien lui associer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, qu'ils les unifient Allah Azza wa Jal, qu'ils lui vouent un culte exclusif réservé à lui seul. Lui seul mérite et est digne d'être adoré. Personne en dehors de lui, même les meilleures des créatures, n'ont aucun droit dans l'adoration ou dans une quelconque part de l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Et cette parole, la ilaha illallah, qui est la clé de l'islam, la parole, la formule avec laquelle on entre dans l'islam, ne sont pas que des lettres ou des mots prononcés par la langue qui sortent de la bouche. Mais ils ont un sens. Et cette parole, elle comprend des actes qui doivent être accomplis, qui viendront confirmer, qui viendront concrétiser, réaliser cette formule qui est la ilaha illallah. Et les ulama, rahimahumullah, dans leur étude des textes coraniques et des textes des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, ont dénombré, ont trouvé 7 ou 8 conditions de la ilaha illallah. Et le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, les a réunis et il les a cités, les conditions de la ilaha illallah, qui sont au nombre de 7. Parfois, comme l'écrit le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, il en cite un 8e. Et il y a aussi un autre point qui s'appelle les annulatifs de l'islam, la waqid de l'islam, que cheikh l'islam Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, il en cite 10. Et ce sont les plus importants parmi les annulatifs. Et le grand savant, le cheikh, le docteur Mohamed Aman ibn Ali al-Jami, rahimahullah, comme beaucoup d'autres savants décédés, rahimahullah, et en vie qu'Allah les préserve, a fait le commentaire de ces conditions et de ces annulatifs dans une conférence audio. Il a fait l'explication, le commentaire des conditions de la ilaha illallah et des annulatifs de l'islam et qui ont été retranscrits plus tard et qui est sorti donc en livre. Le cheikh Mohamed Aman, alayhi rahmatullah, qui est né en l'an 1349 de l'Égypte, à peu près 1929-1928 du calendrier grégorien, et qui est mort en l'an 1416 de l'Égypte, à peu près 1996. Il vécut à peu près 67 ans. Rahimahullahu ta'ala, c'est un savant qui est originaire de l'Éthiopie. C'est un Éthiopien, un Africain, qui a voyagé en Arabie pour la quête du savoir, après avoir déjà fait une quête du savoir dans son pays d'origine, chez les mashayikhs et les savants de son pays. Et donc, il s'est retrouvé en Arabie dans les années 40, rahimahullah ta'ala, et il a continué sa quête du savoir, puis il est devenu professeur dans plusieurs endroits, parmi lesquels dans la région sud de l'Arabie, qui s'appelle Jizan. Il était un institut professeur de Aqidah, dans le domaine du dogme et de la croyance, à la fin des années 50, début 60. Puis à l'ouverture de l'université islamique de Médine, en 1960-61, il a été nommé professeur à l'université islamique de Médine, alayhi rahmatullah. Et donc il fut professeur pendant plusieurs années à l'université, jusqu'à être doyen de la faculté du hadith et aussi des autres études de la aqida, de la croyance et du dogme. Et il était aussi professeur et enseignant à la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à sa mort, alayhi rahmatullah. Ce grand savant de la sunna, ce grand savant salafi, connu aussi pour son combat contre les hérésies, les innovations et les innovateurs, alayhi rahmatullah. Et comme les prophètes ont subi, les suiveurs et les héritiers des prophètes subissent, il a eu beaucoup d'ennemis parmi les sectaires et les innovateurs, et qu'il l'attaque de temps à autre jusqu'à nos jours, jusqu'à inventer et mentir à son sujet comme quoi il est à la tête d'une secte. C'est faux, ce sont eux les sectaires. Ils ne font qu'accuser les autres de ce qu'ils ont comme soucis, problèmes, déviations, égarements et éloignements de la droiture et de la vérité. Mais lui, au contraire, c'était un grand savant de la sunna, défenseur de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, la défendant comme il le peut, de tout ce qu'Allah lui a donné et permis comme force. Et il a réfuté, répondu à leurs ambiguïtés et à leurs faux qu'ils propagent dans la communauté. Rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Donc dans cette retranscription de l'ouvrage, ils ont fait une biographie, ils ont cité la biographie de ce grand savant qui est Cheikh Mohamed Aman, alayhi rahmatullah. Puis le Cheikh, rahimahullah, va commenter, pour commencer, les conditions de la ilaha illallah. Donc c'est pris de la parole du Cheikh de l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ce grand savant de l'Islam, de la région de Najd, qui est la région qui comporte Al-Qasim, qui comporte Riyad. Cette région qu'on appelle Najd. Et ce n'est pas celle-là qui est citée dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, car le terme Najd est donné à plusieurs endroits. Et parmi les territoires qu'on appelle Najd, à l'époque du prophète, alayhi salam, il y a l'Irak. Et dans certains textes, le prophète, alayhi salam, il parle de la région de l'Irak, à l'est de Médine, comme quoi de cette région-là sortent les cornes de Satan, et que c'est une terre qui va connaître et va voir la naissance de beaucoup de troubles, Donc, certains parmi surtout les soufis, les maîtres soufis, les égarés, qui veulent que la communauté soit à leur service, qui veulent que la communauté adore les créatures au lieu d'adorer le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Ils ne veulent pas voir les gens vouer un culte exclusif à Allah Azza wa Jal, mais ils veulent les voir sombrer dans l'idolâtrie et dans le polythéisme et l'association, le plus grand et le plus pire et le plus dangereux des péchés qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Car celui qui vient associer à Allah, Allah lui interdit d'entrer au paradis. Il aura comme demeure le feu de l'enfer et les injustes n'auront personne pour les secourir. Donc, ces défenseurs de l'idolâtrie, du polythéisme, ils ont tout fait pour salir la da'wa de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qui n'a fait que diagnostiquer les maladies qui touchent la communauté musulmane à son époque. Il a vécu au 12e siècle du calendrier musulman de l'Hégire, c'est-à-dire au 18e siècle du calendrier grégorien, dans les années 1700 et quelques. Il vécut plus de 90 ans, alayhi rahmatullah. Il a étudié dans sa région, à la Mecque, à Médine, en Irak, en Syrie, puis il est revenu chez lui pour prêcher la bonne parole, prêcher ce pourquoi Allah nous a créés, prêcher la première parole à laquelle ont invité leur peuple, tout prophète et tout messager. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Et certes, nous avons envoyé à chaque nation, à chaque communauté, un avertisseur, un prophète, un messager qui invite son peuple en lui disant « Adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Et nous n'avons envoyé de messager avant toi sans qu'il appelle, il invite son peuple. Il n'y a point de divinité en dehors de moi, en dehors d'Allah azza wa jal. Alors adorez-moi, vouez un culte exclusif à Allah azza wa jal. C'est le premier ordre qu'on retrouve dans le Mus'haf lorsqu'on lit Sourate Al-Fatiha, puis derrière Sourate Al-Baqara, verset après verset. Le premier verset où il y a une demande, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé, jusqu'à la fin du verset. Donc, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a vécu dans une époque où les gens sombraient dans ce qu'il y avait de pire comme péché, qui était le polythéisme. Les gens adoraient, vouaient des cultes à autre que Allah, aux morts. Et la première apparition du shirk, du polythéisme sur terre, c'était envers les morts. Et on le voit souvent, ce problème qu'ont les gens vis-à-vis des morts. Ils ont une mauvaise croyance, mauvaise conviction là-dessus. Les morts ont besoin de nos doigts, de nos invocations. On est encore en vie. Le vivant, il peut encore œuvrer, agir, invoquer Allah Azza wa Jal en faveur des morts. Qu'Allah il leur pardonne, qu'Allah les élève en degré, qu'Allah les épargne du châtiment, qu'Allah les fasse entrer au paradis. Ça, c'est réservé aux monothéistes, aux musulmans croyants. Et ce qu'ont fait ces gens-là, c'est tout le contraire. Eux qui doivent œuvrer se sont vus dans le besoin des créatures défuntes qui ne peuvent ramener ni un bien ni un mal pour leur propre personne. Comment le pourraient-ils pour les autres? Voilà, tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Et n'invoque personne en dehors d'Allah qui ne peut te ramener ni bien ni mal, qui ne peut ni te faire un bien ni te nuire. Si tu viens le faire, tu seras du nombre des injustes, des polythéistes, qu'Allah nous en préserve. Et donc il les invoque en dehors d'Allah. Et il leur demande en dehors d'Allah, Azza wa Jal, alors qu'ils ne peuvent rien faire pour leur propre personne, comment le pourraient-ils pour les autres? Wal'iyadu billah. Donc, ils ont attaqué la da'wah de Muhammad ibn al-Wahhab, qui n'était que la da'wah du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce à quoi appelait le prophète, sallam, faire sortir les gens de l'adoration des créatures vers l'adoration du Seigneur des créatures. Et donc, Muhammad al-Wahhab, de même, il a été combattu. Et on a dit qu'il était à la tête d'une secte. On a appelé le Wahhabiyya, qu'on a sali, entaché leur nom par mensonge et calomnie, alors qu'il en est innocent. Wal'iyadu billah. Et ces mensonges et ces calomnies et ces rumeurs se sont propagées dans les contrées et dans les terres musulmanes. Mais alhamdoulilah, les véridiques, les sincères, ont compris que tout cela était faux et que le shirk était attaqué seulement parce qu'il appelait à la vérité, seulement parce qu'il a touché un point sensible chez ces gens du faux, chez ces sectaires innovateurs qui cherchent à semer le trouble dans la communauté et à faire des gens de la communauté des disciples et des suiveurs aveugles de leur doctrine et qui soient à leur service. Qu'il leur ramène tout ce qu'ils possèdent, qu'il leur donne en offrande, qu'ils profitent de la communauté par d'une manière qui est interdite en islam. Et le cheikh Mohammed Abdelwahab a mis l'accent sur ce sujet et il a écrit des ouvrages qui sont restés célèbres et d'une importance énorme. On ne peut plus s'en passer. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. Le livre de l'unicité, du monothéisme, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Ça, c'est le droit d'Allah, Azza wa Jal. Le droit d'Allah, c'est que tu l'adores sans rien lui associer. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce noble compagnon, ce bien-aimé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui fait cet honneur. C'est énorme. Il le regarde, lui dit au Mouaz, je jure par Allah que je t'aime. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure à Mouaz qu'il l'aime. Ya Mouaz, Wallahi inni la uhibbuk. La tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il lui apprend cette dua qu'on dit après chaque prière obligatoire. Dans le dhikr, le rappel qu'on fait après les prières obligatoires. Et il lui dit, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-abid wa ma haqqul abid ala Allah. Ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures? Et quel est le droit des créatures sur Allah? Qala qultullahu wa rasuluhu a'lam. Il dit, j'ai dit, Allah et son messager en savent plus. Il dit, haqqullahi ala al-ibad. Le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Aucune adoration, dévotion, culte ne doit être donnée à autre que Allah Azza wa Jal. C'est un culte sincère, exclusif, réservé seulement à celui qui est en droit de le recevoir, qui est notre Créateur et notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est en droit d'en recevoir, même pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé Que dire alors de tout ce qui vient après? Personne. Et tout ce qui est en dehors d'Allah est une créature. Et il est le seul et l'unique. Qul huwa Allahu ahad. Dis, il est Allah le seul et l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui voit un culte sincère, exclusif, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Et voilà la religion de la droiture. Yarhamukallah. Et voilà la religion de la droiture. Ana lillahi dinul khalis. N'est-ce pas que la religion de sincérité appartient à Allah Azza wa Jal? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mon sacrifice des bêtes, l'égorgement des bêtes, ma prière, ma vie et ma mort appartiennent à Allah qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Soumis à Allah, Azza wa Jal, en lui vouant un culte exclusif, subhanahu wa ta'ala. Et comme je vous disais, première fois qu'apparaît le shirk, c'est pour des morts. Non. C'est pour des défunts. Dans le peuple de Nuh, alayhi salam, comme dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il nous explique, il nous informe qu'entre Adam, le père de toute l'humanité, et Nuh, alayhi salam, ils se sont écoulés 10 siècles, 1000 ans. Tout le monde était sur l'islam. Il n'y avait pas de polythéisme. Puis, à l'époque du peuple de Nuh, alayhi salam, il y avait 5 hommes pieux, vertueux, de bonnes personnes, de sages personnes, qui avaient une place auprès de leur communauté, qui étaient respectés. Et ils avaient un endroit où ils avaient l'habitude de s'asseoir pour discuter. Puis, Allah a repris leur vie, leur âme, les a rappelés à lui, subhanahu wa ta'ala. Ils sont morts. Shaitan est venu insuffler à certains de ce peuple pour ne pas les oublier et oublier leurs bonnes actions et oublier leurs vertus et le bien de ces hommes qu'il faut fabriquer des statues à leur image, à leur effigie. Pour s'en rappeler, il n'aura pas dit pour les adorer, ça n'aura pas été accepté. Ils ne connaissent pas l'adoration d'autre qu'Allah. C'est seulement pour s'en rappeler. Shaitan, il prépare le terrain, tout doucement. Puis, ils ont fait ces statues. Et à chaque fois que les gens passent, en les voyant, ils se rappellent de la vertu, ils se rappellent du bien. Puis, la génération, elle part, le savoir s'en va, l'ignorance prend place. Puis Shaitan y revient à la charge. Pensez-vous que vos ancêtres, vos parents, passaient comme ça, indifférents devant ces statues? Non, ils avaient des convictions en eux, des croyances en eux. Vous ne pouvez pas passer comme ça. Ce sont des personnes respectables, proches d'Allah. Vous devez de leur ramener des offrandes. Vous devez leur demander, les invoquer. Et là est arrivé le polythéisme. Pour la première fois sur terre, ils ont été adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et là, Allah Azza wa Jal, il envoie un homme de ce peuple, c'est Nuh alayhi salam. Et de ce fait, il fut, en plus d'être prophète, il était messager. Il était messager, car là, il y a eu ce changement sur terre qui est qu'on a adoré autre que Allah Azza wa Jal. Et ces 5 hommes, ils sont innocents de ce qu'ont fait les gens après eux. Et Allah nous cite leurs noms. Wad, Suwa, Yaouth, Yaouk et Nasr. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. Là, ce sont les cinq noms de ces hommes vertueux. Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, n'a fait que rappeler les gens à la base et à l'origine de la religion. Ce à quoi a appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui tous les prophètes et tous les messagers, alayhimus salatu wassalam. Donc, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit شروط لا إله إلا الله. Les conditions de la ilaha illallah. Al-awwal, al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan. Première condition, c'est la connaissance, le savoir. De savoir. Que veut dire la ilaha illallah? D'en connaître la signification. Que ce soit dans la négation ou dans l'affirmation. Parce que dans la ilaha illallah, il y a la négation et il y a l'affirmation. Nafyan wa ithbatan. Puis après, il cite les autres conditions. On va se contenter, inshallah, dans ce cours, bi'idhnillahi ta'ala, dans ce rappel de la première condition. Donc le cheikh Mohamed Aman, rahimahullah, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khatamin nabiyyin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. La louange, toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et les salutations soient sur le sceau ou le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons, toute sa famille et tous ses compagnons. Après ceci, هذه الشروط ذكر أدلتها بعض أهل العلم. Ces conditions de la ilaha illallah, certains parmi les gens de science, les savants, ils ont rapporté, cité les arguments et les preuves de cela. C'est-à-dire que pour chaque condition, ils ont ramené ce qui vient le prouver comme texte coranique ou hadith du prophète alayhi salatu wassalam. وَرُبَّمَا ذُكِرَ اسْمُهُ فِي بَعْدِ النُّسَخِ. Et il se peut même que parfois dans certains manuscrits, certains exemplaires de l'ouvrage, hein, l'auteur, son nom, il est cité. وهذا الجمع لهذه المسائل المهمة وذكر الأدلة من بعض من شرح الله له صدره من المعاصرين المحبين للتوحيد وأهل التوحيد الناصحين للشباب جمعوا هذا الجمع ورتبوا هذا الترتيب فنسأل الله تعالى أن يتقبل منهم. Donc certains ont cité ces conditions de la ilaha illallah. Oui. Oui. Alaykoum salam. Pardon. Ont cité ces conditions-là en mettant les arguments, les textes coraniques et du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que ça, c'est un rajout de certains savants, ces arguments. Ils disent, à la base, ils ne sont pas cités. Et parfois, est cité le nom de ces savants qui ont rajouté, hein, ces preuves et ces arguments. Donc, le cheikh Hafidhah Rahmahullah, il dit, et ce recueil de ces points essentiels, avec la citation des preuves et des arguments de certains parmi les savants contemporains qui les ont cités, parmi ceux qui aiment et qui ont un amour pour le tawhid et pour les adeptes du tawhid, qui veulent conseiller la communauté, les jeunes de la communauté, Ils ont réuni cela d'une manière bonne, convenable. Nous prions Allah Azza wa Jal d'accepter cette œuvre d'eux. Donc, l'auteur dit, قال المصنف رحمه الله أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. Donc les preuves, les arguments de ces conditions pris du livre d'Allah et de la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. Donc le commentaire, الشرح. وأما أدلة هذه الشروط التي منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول فهذه الشروط لها أدلة. Et concernant les preuves, les arguments de ces conditions, parmi lesquelles il y a le savoir, la connaissance, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour et l'acceptation, donc voici ces conditions avec leurs preuves. وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْأَدِلَّةِ. Et il faut obligatoirement citer les preuves et les arguments. لِأَنَّ اشْتِرَاطَ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَدَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ الْمُعَاصِرِينَ أَمْرٌ غَرِيبٌ. L'importance de ramener les preuves et les arguments à ce sujet, c'est que certains parmi les contemporains se sont étonnés de voir ces conditions en se posant la question, c'est-à-dire d'où elles viennent ces conditions. C'est-à-dire, il y en a même qui peuvent penser qu'elles ont été inventées. Comme par exemple, les trois formes de monothéisme, d'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui ont dit que c'était une innovation. Ils n'ont pas compris que cela est tiré des textes du Coran, de la Sunna. Lorsqu'on regarde tout ce qui a trait à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, on remarque qu'il y a des points concernant les actes d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la seigneurie. Et on retrouve des textes qui ont attrait aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc là, ça concerne les noms et les attributs d'Allah. Puis, on a ce qui a attrait aux œuvres, aux adorations qui viennent des créatures. Et ça, c'est l'unicité de la divinité, de l'adoration. Donc, ils sont dans les textes, mais les ulama, en étudiant, en approfondissant l'étude des textes, voilà ce qui en ressort. Concernant l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il y a un point qui concerne la seigneurie, il y a un point qui concerne la divinité, et il y a un point qui concerne les noms et les attributs. Et il y en a même qui en font que deux formes. Un qui concerne Allah et un qui concerne ses créatures. Ce qui concerne Allah, il est de deux sortes. Les noms et les attributs et la seigneurie. Et ce qui concerne les créatures, c'est l'adoration. Ils ne doivent adorer que Allah seul, sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. De même pour la ilaha illallah. Pour qu'elle soit acceptée, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que cela demande? Ce sont les conditions pour qu'elle soit valide, la ilaha illallah. En recherchant dans les textes, ils ont retrouvé ces points qu'on vient de citer. Donc, c'est très important de prouver cela, que ça ne vient pas du néant, qu'il y a des preuves à cela. Pourquoi certains savants les ont cités? Parce qu'ils ont retrouvé cela dans l'étude, lorsqu'ils ont amassé les textes religieux, ils les ont étudiés de la bonne manière, voilà ce qui en ressort. فَرُبَّمَا يَقُولُ قَائِلُ مَا أَكْثَرَ مَا تُحَدِّثُونَ تَأْتُونَ كُلَّ يَوْمٍ بِجَدِيدٍ. Car quelqu'un pourrait dire, combien vous parlez beaucoup? À chaque jour, vous nous ramenez une chose nouvelle. Pour lui, à ce moment-là, il pense que c'est inexistant, que c'est une chose nouvelle, inventée, ramenée par les gens. Mais ça, c'est à cause de son manque de connaissances, à cause de son ignorance. نأتي بجديد وعليه دليل. C'est-à-dire que nous sommes quelque chose de nouveau alors qu'il y a une preuve à cela. فالجدة نسبية بالنسبة لمن لم يعرف الجديد. Ce qui est nouveau, c'est par rapport aux gens. C'est proportionnel. C'est pas pour tous les gens que c'est nouveau. C'est nouveau pour celui qui ne connaît pas. Ce qui est nouveau. ولذلك
لما جددت هذه الدعوة المباركة قيل إنهم أتوا بدين جديد. Et c'est pour cela que lorsque la religion se prêche, il a été revivifié, ramené à nouveau, les gens les ramenaient à ce qui existait déjà. Mais puisque c'était perdu pour les gens, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Voyant celui qui les appelle à ce qui existait déjà, ils ont dit, vous venez avec une nouvelle religion. N'est-ce pas? Quelqu'un, il vient auprès de sa famille, même dans la mosquée, parfois dans une mosquée, il vient avec une action, avec un enseignement qui est dans la sunna. Et pour eux, ils disent quoi? Ça, c'est nouveau. Tu ramènes quelque chose de nouveau. Ça, c'est une nouvelle religion. Et au final, c'est eux qui se trompent. Et la personne, ce qu'il a ramené, il a les preuves et les arguments qui l'appuient. والدين ليس بجديد ولكنه جدد. Et la religion, elle n'est pas nouvelle, mais elle a été revivifiée. Les personnes, Allah fait que de temps à autre, il y a des personnes qui viennent revivifier la religion, ramener les gens à la véritable religion, au véritable enseignement. ومعنى التجديد, et le sens de la revivification, لما أعرضت الناس عن الإسلام وجهلت الناس الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء المجدد ليبين للناس حقيقة الدين الإسلامي. Lorsque les gens en sont arrivés à tourner le dos, à s'éloigner, à s'écarter de l'islam, à ignorer, les gens sont arrivés aussi à ignorer la véritable signification, définition de la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là vient le rôle du revivificateur. C'est lui qui vient revivifier la religion, ramener les gens à la source, au véritable sens de la religion, à la réalité de la religion islamique. Ça, ce sont les ulamas du tawhid et de la sunna, du droit chemin. C'est ça, faire vivifier. Et non pas quelqu'un qui sort les gens d'une chose pour les ramener à une chose pire encore. Ou les ramener à une chose qui est au final aussi un égarement. Il les fait quitter un égarement pour les emmener dans un autre égarement. Et on fait passer cette personne pour un mujaddid. Ça, c'est faux. Ou alors c'est un mujaddid de l'égarement. Il n'a fait que revivifier l'égarement et non pas ramener les gens à la véritable religion. Vous les entendez, les frères musulmans? Ils disent Hassan al-Banna, c'est un mujaddid. Mujaddid de quoi? Il a rappelé les gens au tawhid, il a rappelé les gens à la sunna. Ils te disent oui, mais lui, il est rentré dans les cinémas, dans les théâtres, il les a fait sortir des cafés pour les ramener à la religion. Quelle religion? Il les a ramenés à la politique. Il leur a enseigné comment on fait des révolutions, comment détester le gouvernant, comment quitter la sunna, comment combattre les gens du tawhid. Voilà ce qu'il leur a enseigné. Et il leur a ramené des fondements jamais enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils appellent ça un mujaddid. Sayyid Qutb, c'est un mujaddid, un homme comme lui, c'est Qutb, un ignorant sur les questions fondamentales de la religion musulmane et des questions concernant les branches de la religion musulmane, qui s'est mis à écrire dans l'islam, et on a vu les dégâts que ça a fait. Wal'iyadu billah. Il n'a fait que revivifier l'idéologie des khawarij. Et tous les khawarij de notre époque, en règle générale, ils se ressourcent dans les ouvrages et les écrits de Sayyid Qutb. Wal'iyadu billah. Et il y en a plein d'autres exemples. Non, Al-Mujaddid, il peut en avoir un dans la même époque. Il peut en avoir plusieurs dans la même époque. Mais ce sont les ulama du Tawhid et de la Sunna, ceux qui ont rappelé aux gens à retourner à la véritable religion de droiture, qu'on adore Allah seul sans rien lui associer, et un suivi convenable du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et revenir à l'islam comme il fut compris à l'époque des pieux prédécesseurs. Laysat tajdid an ya'ti al-insan bijadid kharij al-islam. La ramification, ce n'est pas le fait qu'une personne, il nous vient avec une chose nouvelle qui est externe à l'islam, qui ne fait pas partie de l'islam. Là, non, c'est pas cela. Fad-din thabit. La religion est ferme. Walakin qad yatra'u 'ala atba'ihi al-jahl wal-i'rad wal-bu'd 'an ad-din. Mais il peut y arriver que des gens de la communauté, des adeptes de la communauté musulmane, parmi les suiveurs de l'islam, soient touchés par l'ignorance, l'éloignement, d'être écartés et d'être éloignés de la religion. Da'watun nas min jadid ila ad-din wa tafhimuhum lid-din min jadid. Hadha alladhi summiya tajdidan. Hadha ma'na at-tajdid. Inviter les gens, appeler les gens de nouveau à la religion et leur donner la bonne compréhension authentique de la religion à nouveau. Voilà ce qu'on appelle la revivification. Voilà le sens de la revivification. Amma at-tajdid al-jadid al-muntashar al-yawm an yatiya kullu sahibi fikratin bi fikratin jadidatin wa yuqni' atba'ahu bi anna hadhihi da'watun islamiyya wa fiha ma fiha wafaqat ad-din aw lam tuwafiq thumma yutliq 'ala nafsihi الزعيم الفلاني والجماعة الفلانية هذا التجديد مذموم. Mais de notre époque, ce qu'on entend comme terme de revivification, qui est répandu, propagé chez les gens aujourd'hui, chaque personne qui a une idée, qui lui traverse l'esprit, qui lui trotte dans son fort intérieur, et qui arrive à la faire entrer chez les gens, accepter des gens, il arrive à convaincre les gens, ses suiveurs, que ceci n'est que le prêche islamique. Ce qu'il a ramené, il lui donne le nom de prêche islamique, alors qu'elle comporte ce qu'elle comporte, qu'elle soit en conformité avec la religion ou pas. Puis il se donne comme titre le leader un tel, le groupe ou la secte ou le parti un tel. Ça, c'est une revivification qui est rejetée, qui est mauvaise. لِأَنَّهُ إِعْرَادٌ عَنِ الدِّينِ. Car c'est un écartement de la religion, c'est un éloignement de la religion. وَالتَّجْدِيدُ الذي نحن نتحدث عنه ليس الاتيان بشيء جديد. Et la revivification dont on parle, nous, dont nous parlons, ce n'est pas de venir avec une chose nouvelle. ولكن تجديد مفهوم الإسلام الذي غيرته الناس. Mais c'est de revivifier la compréhension de l'islam qui a été entachée, déformée par les gens, changée par les gens. لذلك هذه الشروط ليست بجديدة كما ستسمعون أدلة من الكتاب والسنة. Et de ce fait, ces conditions de la ilaha illallah, elles ne sont pas nouvelles, comme vous allez l'entendre lorsque vous allez entendre les preuves, les arguments du Coran, du livre d'Allah Azza wa Jal, et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Lakin qad yaftahu Allah ala man yasha'u min ibadihi wa yufaqqihu fi ad-din ويفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يفهمه غيره. Mais il se peut qu'Allah, il ouvre, il fait ouverture à des personnes et pas à d'autres. Il facilite à des personnes et pas à d'autres. Parmi ceux qu'il a choisis, parmi ses serviteurs, il lui donne la compréhension de la religion et il lui fait comprendre les textes du livre de la Sunna et il ne donne pas cette compréhension à d'autres. Ce n'est pas donné à tout le monde. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid-din. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. فهذا ليس بأمر جديد ولكنه فتح من الله. Ceci n'est pas une chose nouvelle, mais c'est Allah qui fait ouverture, qui donne et qui octroie à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. الشرط الأول, la première condition, دليل العلم, la preuve de du savoir, la connaissance, c'est-à-dire la connaissance de la ilaha illallah. قَوْلُهُ تَعَالَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens du verset, sache. Donc il faut que tu aies le savoir, que tu aies la connaissance, que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et aussi la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset, sauf celui qui a témoigné avec vérité. Ça, c'est la traduction littérale. Sauf celui qui a témoigné avec vérité tout en le sachant, en ayant le savoir et la connaissance. Ay bi la ilaha illallah. La vérité ici, c'est la ilaha illallah. Sauf celui qui témoigne de la ilaha illallah tout en le sachant. Wa hum ya'lamun bi qulubihim ma nataqu bihi bi alsinatihim. Tout en le sachant, c'est-à-dire que leur cœur sait ce que les langues ont prononcé, ont formulé. Cheikh Mohamed Aman rahimahullah, il dit dans son commentaire, ay ad-dalil 'ala ishtirat al-'ilm. La preuve, l'argument sur la condition du savoir. قَوْلُهُ تَعَالَ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَعْلَمْ بَدَأَ بِالْعِلْمِ. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. فَعْلَمْ, sache. Il a commencé par, il a débuté le verset par le savoir. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, hein, il a un chapitre que le savoir doit précéder la parole et l'acte. Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wa staghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Chapitre, le savoir avant la parole et l'acte. Et la preuve, l'argument, c'est ce verset coranique. Dans le sens du verset, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour toi, ainsi que pour les croyants et les croyantes. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Et il a donc débuté, commencé par le savoir avant la parole et l'acte. قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ مَا نَتَقُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ. Puis l'auteur, il dit la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset, sauf celui qui témoigne avec vérité, c'est-à-dire avec la ilaha illallah, tout en le sachant, c'est-à-dire avec la ilaha illallah, c'est celui-là le témoignage de vérité. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, tout en le sachant, alors qu'ils le savent, c'est-à-dire avec leur cœur, ce que leurs langues ont prononcé, ont formulé. الشرح, l'explication de Cheikh Mohamed Aman alayhi rahmatullah, il dit يَعْلَمُونَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَعْلَمُونَ اللَّفْظ وَالْمَعْنَى وَالْمُقْتَضَى. Ils connaissent, ils savent ce qu'est la ilaha illallah. Ils connaissent la formule, ce qu'il faut dire, la ilaha illallah. Et ils en connaissent le sens, la signification, la définition, et aussi ce qui en découle, ce qui est attendu par cette parole.
مجرد معرفة اللفظ أي حفظ اللفظ بدون معرفة المعنى لمعنى لا إله إلا الله لا ينجي.
De se contenter seulement de la parole, de la formulation, de connaître, de mémoriser seulement le mot, la phrase, sans en connaître le sens de la ilaha illallah, ceci ne sauvera pas la personne, n'épargnera pas la personne.
وَالْمُنَافِقُونَ وَالْكُفَّارَ قَدْ يَحْفَظُونَ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لَكِنْ كَانُوا يَتَحَفَّظُونَ خصوصا أهل مكة يتحفظون من نطقها لأنهم ما كان لديهم نفاق.
Et les hypocrites et les mécréants, il se peut qu'ils connaissent cette phrase, ils la connaissent, ils pourraient la répéter, mais ils se retenaient de la répéter ou de la dire ou de la prononcer, surtout les mécréants de la Mecque. Ils se retenaient de la prononcer, car à leur époque, à l'époque mécoise, il n'y avait pas d'hypocrisie. Il y avait les musulmans croyants et il y avait les mécréants. Cette catégorie n'apparaîtra que dans la période médinoise. Donc, eux, ils ne la prononçaient pas. Ils se retenaient, bien qu'ils la connaissaient cette phrase, mais ils n'y croyaient pas et ils ne la prononçaient pas.
النفاق إنما انتشر هنا في المدينة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرق الإسلام بين المؤمنين وبين المنافقين.
Et l'hypocrisie n'est apparue que dans la ville de Médine, dans la période médinoise, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à émigrer à Médine. Et l'islam a bien séparé entre les croyants et les hypocrites.
Ahlu Mecca kanu kuffaran suraha.
Les habitants de la Mecque étaient des mécréants clairs. Ils ne se cachaient pas. Ils montraient clairement ce qu'ils étaient.
لذلك أبوا أن يتكلموا بهذه الكلمة.
Et c'est pour cela qu'ils se sont retenus de la prononcer. Ils ont refusé de prononcer cette parole.
Allah تبارك وتعالى nous dit à ce sujet: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ.
Dans le sens du verset: et certes, lorsqu'il leur était dit la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient, ils se gonflaient d'orgueil, ils s'enflaient d'orgueil, et ils disaient: allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Voilà comment il disait, comment il parlait du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ça, ce sont les paroles des idolâtres, des polythéistes de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invitait à la ilaha illallah.
لأنهم لو تلفظوا بها لازمهم أن يلتزموا بمقتضاها.
Car s'ils l'avaient formulé, s'ils l'avaient prononcé, ça aurait été un devoir pour eux de s'acquitter de ce qui est attendu, ce qui est demandé de cette parole qui est la ilaha illallah.
لذلك من آمن منهم أيضا كان مؤمنا خالصا صادقا.
Et c'est pour cela qu'à cette époque, toute personne qui prononçait, formulait la ilaha illallah, il était un croyant sincère, véridique.
لا بد من العلم والذي يدعي أنه يشهد بكذا وهو لا يعلم ما يشهد به شهادته مردودة. Il faut obligatoirement la connaissance, le savoir de cette formule. Celui qui prétend témoigner d'une chose alors qu'il ne la connaît pas, il ne sait même pas ce sur quoi il témoigne, son témoignage est rejeté. Illa man shahida bil haqqi, sauf celui qui a témoigné avec vérité. Al haqqu, la vérité, huwa ma jaa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wa salam. L'islam, les enseignements, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé en héritage, voilà la vérité. Al haqqu la ilaha illallah, la vérité c'est la ilaha illallah. Al haqqu hadyuhu sallallahu alayhi wa sallam, la vérité c'est la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu dhalika haqqun, tout ceci est une vérité. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, sauf celui qui a témoigné avec vérité tout en le sachant. Ya'lamun ma shahidu bihi, ils connaissent, ils ont le savoir de ce pourquoi ils témoignent. Ya'lamun ma'na la ilaha illallah, ils connaissent la signification de la ilaha illallah. Yahfazuna hadhihi al-jumla wa hadhihi al-kalima wa ya'lamuna ma'naha wa ya'maluna bi muqtadaha wa hadha min al-kitab. Et donc ils connaissent, mémorisent cette phrase, cette parole, ils en connaissent la signification et ils appliquent ce qui est voulu par cette parole.
سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. On n'a pas pu terminer tout ce qui avait attrait à la première condition, mais j'espère qu'inchallah avec tout ce qu'on a pu voir, que cela a été bénéfique pour nous tous. Walhamdulillahi rabbil alamin.